RFI, grand reportage, Laurence Adou.
Ils ont fait du glorieux 17 avril l'hymne national de leur régime. Le Kampuchera démocratique, ce jour-là, il y a 40 ans, les Khmers rouges prennent la capitale Phnom Penh, la vide de ses habitants, et font basculer le Cambodge dans l'horreur. Leur révolution marxiste-léniniste est radicale. Institutions balayées, monnaie abolie, religion interdite, famille éclatée, élimination des intellectuels, etc., etc. Le pays se transforme en une vaste prison sans mur. L'utopie agraire vire au cauchemar, famine, épuisement, maladie, exécution. En moins de 4 ans, un Cambodgien sur 4 va perdre la vie. Quand le Vietnam voisin chasse du pouvoir Pol Pot et sa clique, s'ensuit plus d'une décennie de propagande gouvernementale diabolisant les Khmers rouges devenus des rebelles. Puis, à la faveur d'une politique de réconciliation nationale, une amnésie s'installe alors dans les institutions, dans les manuels scolaires. Aujourd'hui, les Cambodgiens, nés après la tragédie Khmer Rouge, comptent pour les deux tiers de la population. Comment, 40 ans plus tard, la transmission de cette douloureuse mémoire s'opère-t-elle? Grand reportage signé Stéphanie G, que l'on retrouve pour en parler dans un quart d'heure.
Rithib Pan, premier cinéaste cambodgien de l'après-guerre, est devenu l'un des grands passeurs de mémoire de son pays. En archéologue, selon son expression, il effectue des fouilles sur le régime Khmer Rouge. Il cherche à mettre en lumière les mécaniques du génocide, à s'assurer que cette histoire ne reste pas enterrée. Il le sait, il y a danger à vouloir occulter le passé.
Cette tragédie-là, elle nous guette. Pas seulement le côté traumatisme et tout ça, mais c'est aussi qu'il y a eu des crimes énormes qui sont restés impunis. En cas de population sont mortes, on n'a pas expliqué. Et cette absence d'explication fait qu'on porte une poids encore aujourd'hui. Il fallait un temps nécessaire. Et maintenant, bon, la nouvelle génération est là. Ils sont peut-être dans une situation économique, sociale et peut-être même un bagage intellectuel qui le permette de commencer à chercher à comprendre, à chercher à savoir. Eux aussi, ils veulent savoir. Hein. C'est pas vrai que les nouvelles générations s'en fichent de ce qui est arrivé. Ça, c'est absolument pas vrai. Ça n'est peut-être pas leur priorité, mais ils veulent savoir. Bon, évidemment, c'est douloureux de savoir que les Khmers rouges sont aussi les Khmers. En même temps, il faut arriver, c'est pas les Khmers que tu les Khmers. C'est compliqué, quoi. Puis aussi, il y a des politiciens qui essayaient de réécrire l'histoire de leur manière. Il y a aussi les Khmers rouges eux-mêmes qui ressortent toujours cette idée que c'est les Vietnamiens qui tuent les Khmers, c'est les Cambodgiens au corps Khmer, mais l'esprit vietnamien. Bon, voilà, c'est la rhétorique raciste et les politiciens d'aujourd'hui, le monde problème, c'est les Vietnamiens qui est responsable de ça. Voilà. Le non-traitement de l'histoire fait qu'on vit pas bien nous-mêmes, on comprend pas bien.
Les jeunes sont aujourd'hui plus lucides face à leur histoire. Ils ne sont plus dans le déni. Une évolution, estime le survivant Rithib Pan, dans laquelle le tribunal Khmer Rouge a joué un grand rôle. Mis en place par le gouvernement cambodgien avec l'aide des Nations Unies et en activité depuis plus de 8 ans, il a déjà condamné 3 anciens responsables du Kampuchea démocratique.
Pour reconnaître le travail du tribunal. C'est pas aussi parfait qu'on espère, mais il fait du bien. Il fait qu'on voit ces gens-là, ces leaders Khmer Rouge, ces criminels derrière quand même le box quoi, des accusés. Ça, c'est quand même important, historiquement, psychologiquement.
Au tribunal, côté jardin, le porte-parole Nekpek Tra accueille des étudiants venus pour la première fois assister à une audience. Avant de les introduire au fonctionnement de la juridiction, il interpelle un petit groupe.
Avant de venir ici, est-ce que vous croyez que les Khmers rouges ont existé?
On y croit.
S'ils n'avaient pas existé, ce tribunal n'aurait jamais vu le jour.
Pourquoi je leur demandais cette question? Parce que avant l'établissement du tribunal, à ma génération, ou le plus jeune que ma génération, certains n'ont pas cru que le régime de Khmer Rouge existe. Il y a beaucoup de doutes, comme autres familles ne racontent pas l'histoire du Cambodge démocratique. Parce que chaque famille, au moins, il a perdu un membre. Et aussi, ils ont rencontré des malheurs, etc. Ils ont essayé d'oublier le passé. Donc, ça, c'est la mauvaise conséquence. Quand on n'a pas raconté, les jeunes générations, ils ne croient pas. Dans le proverbe cambodgien, quand on a l'eau, on a les poissons. Et quand on a raconté que pendant le régime de Khmer Rouge, on n'a pas quoi à manger, c'est un peu contradictoire ce qu'on a appris. Le Cambodge est en richesse de la ressource naturelle, notre terre est bien plantée, etc. Pourquoi les gens n'ont pas quoi à manger, n'ont pas du riz, etc. Donc c'est horrible que les anciens racontent cette histoire. Donc les enfants ne croient pas et ils considèrent que cette information, c'est seulement faire peur des enfants de manger ou de ne peut pas faire ci, de ne peut pas faire ça. Donc c'est un peu différent. Maintenant, les élèves, même tout petit, quand j'ai demandé « Croyez-vous que le régime Khmer Rouge existe au Cambodge ?» Ils croient. Ils croient.
Le tribunal a rendu le sujet public, a ouvert le dialogue. Et en offrant une tribune aux victimes qui, pour la première fois dans l'histoire du droit pénal international, sont autorisées à se constituer partie civile, il permet de libérer la parole. Ned Pektra est intarissable sur le sujet.
Par exemple, une femme qui a été violée pendant le régime de Khmer Rouge, elle garde son secret dans son cœur. Mais quand elle est venue ici, écouter autre victime raconter sa souffrance devant le tribunal, elle a pensé, ah, c'est pas moi tout seul qui a rencontré ce problème, mais c'est les autres aussi. Donc, grâce au tribunal, les gens ici ont échangé les expériences et parmi 270 000 personnes qui sont venues ici, une moitié, ce sont des victimes de Khmer Rouge et une autre moitié, ce sont des jeunes générations. Et j'ai fait discuter. J'ai demandé aux jeunes générations d'écouter les vieux générations raconter ce qui s'est passé pendant le régime.
La transmission parent-enfant peut parfois passer par une œuvre de fiction. C'est le cas, si Trithipane, d'une jeune Cambodgienne qui a réalisé, il y a 2 ans, un magnifique film sur les enfants sous les Khmer Rouges.
C'est ses parents qui lui ont raconté comment ils volaient du riz quand ils étaient sous les Khmer Rouges. C'est ça la transmission. Les parents parlent, puis l'enfant fait quelque chose. Une fois c'est exprimé, c'est fini. Elle va faire autre film. Ça va être difficile aussi pour les gamins. À chaque fois, quand ils n'arrivent pas à finir le riz dans leur assiette, les parents disent « Mais tu te rends pas compte, il faut finir le riz. Sous les Khmer Rouges, on n'avait rien à manger. » Ça devait se passer comme ça. Du coup, la gamine qui grandit, qui fait un film sur comment les enfants volaient du riz sous le Khmer Rouge. Vous voyez, c'est des choses qui sont réelles dans une famille, qu'il fallait qu'un membre de la famille s'exprime d'une manière ou d'une autre. Et après, on se sent mieux.
Transmission, c'est aussi le titre de l'exposition actuellement accrochée au mur du Centre de ressources audiovisuelles Bopana. Un lieu d'archives créé par Trithipane dans la capitale. Elle inaugure une série d'événements de commémoration de l'arrivée au pouvoir des Khmer Rouges intitulée « Les actes de mémoire ». Un projet né dans l'esprit de Pleun Prim, le directeur de l'ONG Cambodian Living Arts, et mené conjointement avec le Centre Bopana.
Comment on peut utiliser cette opportunité pour commémorer, bien sûr, mais surtout pour engager la jeune génération de Cambodgiens? Comment eux peuvent comprendre à travers cette commémoration l'histoire de leur pays, comment ils le vivent au présent et comment, après ça, regarder le futur? On s'est dit, mais ça, c'est l'opportunité d'en faire un thème pour l'année. Parce que l'idée, c'est aussi un éveil historique, je dirais, pour les jeunes. Tout au long de l'année, il y aura un programme de films. On aura aussi un symposium avec des jeunes Cambodgiens et on aura aussi même une présentation artistique, spectacle de danse qui traite du passé et de la tragédie des Khmer Rouges. Et on va terminer l'année avec une conférence internationale. J'ai souvent été un peu invité dans des conférences internationales qui se présentent aux États-Unis ou en Europe sur le rôle des arts à travers les pays qui ont vécu des conflits importants. Et je me suis dit, mais tiens, pourquoi ces invitations arrivent au niveau des pays occidentaux, mais j'ai jamais été invité par un pays qui a traversé ces traumatismes importants. Donc l'idée, c'est presque de démarrer un réseau d'artistes pour venir et discuter autour d'un forum, partager leur vécu, leurs expériences et comment les artistes ont joué un rôle important à travers les guerres, à travers des génocides.
Le Makremissa avait 7 ans en 1975. Les Khmers rouges viennent encore le tourmenter la nuit. Ce photographe reconnu parvient enfin à en parler aujourd'hui à travers une série de photos à l'esthétique troublante. Il a découpé des personnages de papier qu'il a noyés dans une ambiance de fumée, reconstituant des scènes d'évacuation de Phnom Penh du 17 avril à travers les yeux de l'enfant qu'il était alors.
La plupart des survivants cherchent à oublier ce passé, tout simplement parce que c'est très douloureux. À travers ces photos, je cherche à garder en mémoire ces souvenirs.
Le compositeur Im Sopi a eu, lui, l'idée d'écrire un requiem sur les Khmers rouges. La partition est écrite, mais sans orchestre de chambre au Cambodge, il lui faudra encore 2 ans avant de pouvoir le jouer dans son pays.
Je veux rappeler à tous mes compatriotes qu'il ne faut pas oublier la tragédie qu'on a vécue. Et les inviter à penser à la paix, à garder espoir. En effet, le requiem parle aussi du paradis, de l'enseignement de Bouddha.
En fait, les artistes sont pas les premiers de cette histoire-là. Maintenant, peut-être qu'il y a les historiens, les nouvelles générations d'historiens aussi qui va peut-être arriver. J'ai toujours dit que c'est une histoire qu'il fallait affronter une fois pour toutes.
À force de regarder les célébrations retransmises à la télévision nationale chaque 7 janvier, jour de la chute du régime Khmer Rouge, l'artiste Kong Voleak a décidé de faire lui aussi œuvre de mémoire.
Now I'm working on the project about the human body of the Cambodian people who died.
Je travaille actuellement sur un projet de petite sculpture représentant les corps des victimes tombées sous les Khmers Rouges destinés à être installés directement sur le sol. Je fais en sorte que leur corps et visage ressemblent un peu à des robots, car sous ce régime, ils n'avaient le droit de rien faire, seulement obéir au pouvoir. J'espère que mon travail aidera à l'œuvre de mémoire et aussi à briser le silence. Mes parents, par exemple, n'aiment pas parler de ce qu'ils ont vécu. Ils préfèrent se taire.
Le projet de Voleak est ambitieux. Celui qui est né après les Khmers Rouges veut réaliser autant de sculptures qu'il y a eu de morts sous le régime de Pol Pot, soit 2 millions. Il n'en est pas à son premier travail sur le sujet. Il est emblématique d'une génération qui s'ouvre peu à peu à son histoire, comme l'explique Plun Prim.
Aujourd'hui, ces jeunes, la génération du processus de paix qui avait été amorcé par les Nations Unies début des années 90, ils ont ce manque de mémoire, d'éducation, et c'est eux qui demandent d'en savoir plus. J'ai vu l'amorce à la suite du décès du roi Sihanouk. Pour moi, il y a presque 3 ans déjà, c'était tout d'un coup pour les jeunes Cambodgiens d'apprendre l'histoire du Cambodge au-delà du gouvernement actuel, au-delà de ce qu'ils connaissent, qui était très très peu. Et à travers l'histoire de Sihanouk, les jeunes tout d'un coup se sont ouverts à un Cambodge qui a traversé un génocide et qui a traversé une guerre, mais qui a existé bien avant ça, qui était un pays culturellement hyper développé. Et je pense que pour moi, c'était la première révolution presque de Facebook, du social media, où les jeunes tout d'un coup ont commencé à partager ces vidéos, partager ces photos et à vouloir comprendre plus.
Les jeunes ne sont pas pour autant devenus obsédés par leur histoire. Ils s'y intéressent juste d'une manière normale, souligne Ritipan, ajoutant que ce phénomène touche principalement les citadins.
En province, le travail est un peu plus compliqué parce que la condition de vie, elle est plus dure. Donc, ce sujet-là reste au fond de nous comme tapé dans l'homme. Mais au fond, les cicatrices sont toujours là. Les fosses, les sites, les célèbres. On sait que cet endroit-là, c'était une prison. On sait que cet endroit-là, les Khmers Rouges ont massacré des gens.
Les Khmers Rouges ont fait leur entrée dans les sujets du baccalauréat cambodgien. Depuis 5 ans, à travers le pays, l'histoire du Kampuchea démocratique est enseignée à l'école, rappelle le porte-parole du tribunal Khmer Rouge.
On a déjà la chapitre sur l'histoire du Kampuchea démocratique qui a été intégré au programme scolaire. Et les étudiants ont bien maintenant appris l'histoire du Cambodge démocratique et connaissent mieux que notre génération.
C'est un début dans ce pays où d'anciens cadres Khmer Rouge restent encore dans les sphères d'influence. L'étude en classe du passé en général et de ce sombre chapitre en particulier demeure néanmoins insuffisante, ce que regrette le lycéen Oudong.
J'ai vraiment envie d'effectuer davantage de recherches sur les Khmers Rouges pour améliorer mes connaissances. Il faudrait d'ailleurs qu'on en parle plus, que l'on en sache plus sur l'histoire de notre pays. C'est important, car si les leçons du passé sont sues, les jeunes générations pourront alors éviter de commettre les mêmes fautes qui ont conduit le pays à la tragédie. Ce que je souhaite aujourd'hui, qu'un tel régime ne revienne pas, que tous les élèves s'informent à ce sujet, qu'ils ne suivent pas le même chemin, mais qu'ils contribuent au contraire au développement du pays.
Le Cambodge est face à son histoire, un constat qui n'est pas son bémol pour Ritipan.
Et je crois qu'on est dans un moment assez crucial, même si c'est difficile de dire aux gens, voilà, il faut travailler cette mémoire, le sceller, le bien garder, une fois pour toutes, ça n'a jamais été la priorité des gouvernements du monde.
Le cinéaste, plusieurs fois primé, met cependant en garde. Le génocide Khmer Rouge ne doit pas devenir l'identité, la raison d'être des Cambodgiens. Sa compréhension doit au contraire les aider à tourner cette lourde page et à avancer. 40 ans après l'horreur Khmer Rouge, le Cambodge face à son histoire. Un grand reportage de Stéphane Higé, réalisation Boris Vitschik.
Stéphane Higé, vous êtes l'auteur de ce grand reportage. Il y a 40 ans, le 17 avril 1975, le Cambodge tombait aux mains des Khmer Rouges. En ce jour de victoire, ils font entièrement évacuer la capitale, Phnom Penh, pour imposer à ses habitants un retour forcé à la terre. Un exode brutal dont beaucoup ne reviendront pas vivants. La révolution marxiste-léniniste menée par Pol Pot et ses camarades se soldera par un très lourd bilan. Un quart de la population décimée et un pays détruit. Alors c'est donc aujourd'hui un anniversaire tragique dont se fait l'écho la presse internationale, mais qui n'est marqué au Cambodge par aucune cérémonie de commémoration officielle. Dites-nous pourquoi.
Disons qu'il existe entre le parti au pouvoir et l'opposition une sorte de guerre des dates à commémorer. Le premier, le parti du peuple cambodgien, a inscrit la date du 7 janvier, jour de la chute du régime Khmer Rouge, au calendrier des jours fériés. Un jour qui donne notamment lieu à un grand rassemblement du parti et offre une vitrine de son unité et de sa force. Or, l'opposition refuse de célébrer le 7 janvier car cette date marque pour elle davantage l'invasion du territoire par le Vietnam. Ce sont en effet les troupes du pays voisin qui ont chassé du pouvoir les Khmers rouges et qui occuperont durant une décennie le Cambodge. Aussi, l'opposition préfère-t-elle organiser une cérémonie à la mémoire des victimes chaque 17 avril. Et elle s'est en quelque sorte appropriée cette date, comme le parti dirigeant en a fait du 7 janvier.
Et si j'ai bien compris, vendredi ne fera pas exception.
En effet, comme les précédentes années, cette manifestation de l'opposition se déroule en périphérie de Phnom Penh, au charnier de Chung Hek, un ancien site d'exécution sous les Khmers Rouges devenu un lieu de mémoire. C'est là également que se tient, chaque 20 mai, une cérémonie du souvenir, cette fois-ci officielle, connue sous le nom de Journée de la Colère, en présence de nombreux bonzes, fonctionnaires et survivants. Alors à cette occasion, des étudiants habillés de noir rejouent des scènes de torture telles que les Khmers Rouges la pratiquaient. Rappelons que cette Journée de la Colère du 20 mai a été initialement instaurée par le régime à la chute du pouvoir Khmer Rouge et s'appelait alors Journée de la haine. Le régime mis en place par le Vietnam, un allié de Moscou, était alors en quête de légitimité sur la scène internationale dans le contexte de guerre froide de l'époque.
Et cette commémoration s'inscrit dans un contexte plutôt festif.
Oui, le 17 avril tombe à la fin des 3 jours de congé accordés pour les fêtes du Nouvel An cambodgien, qui s'étirent d'ailleurs souvent sur une semaine. La capitale se vide alors de beaucoup de ses habitants, nombre de réunions familiales se tenant en province. Et ce passage à l'année 2559, dans le calendrier bouddhique, a été marqué par 2 inscriptions au livre Guinness des records. À 2 jours d'intervalle, le Cambodge a confectionné le plus gros gâteau de riz gluant au monde, pesant un peu plus de 4 tonnes, et a battu le record du monde du plus grand Madison avec 2015 participants. 2 événements retransmis sur toutes les chaînes publiques de télévision qui ont suscité des élans de fierté nationale, comme si les Cambodgiens voulaient désormais mettre le régime génocidaire derrière eux et qu'on parle d'eux dans l'actualité internationale autrement qu'à travers les Khmers Rouges.
Ce sera le mot de la fin, un grand reportage à réécouter sur rfi.fr. Stéphane Higé, merci beaucoup. Bonne journée.